policiers. Même le ciel s'était mis de la partie, car en plus du pilonnage était venue à la mi-avril une terrible vague de froid. Et sur la boue gelée, dans laquelle trépignaient les hommes hagards et transis, était tombée la neige. Et beaucoup d'amis aussi sont tombés, pensa-t-il en chassant un rat.
Et le 13,
conta-t-il en bâillant, soudain repris par une écrasante envie de dormir. Non, se dit-il, non, ce n'est pas le moment. Je dois avoir encore pour plus d'une heure et demie avant la relève, il faut que je tienne. J'ai réussi jusque-là, comme a réussi Marthe là-bas, ma petite Marthe, qui doit déjà dormir depuis longtemps. Car dans ses lettres, elle m'a toujours dit que, Dieu soit loué, elle dort très bien. Il est vrai qu'elle a bas une telle somme de travail dans la journée qu'il ne doit pas avoir besoin d'être bercé le soir venu. Marthe, si douce, si tendre, mais si forte aussi, et qui résiste. Résister. Lui aussi, au soir du 2 août 14, avait dû résister à la folle envie de faire le mur et de rejoindre Costeblanc, quand un capitaine leur avait annoncé que leur régiment ne quitterait sûrement pas Brive avant 8 jours. Il avait pensé qu'en marchant bien, il pouvait être à la ferme en 3 heures et y arriver avant que Marthe ne soit couchée. « Moi partie, elle a le double de travail, alors elle n'est pas prête d'aller au lit, la pauvre. » Et comment s'en est-elle tirée aujourd'hui avec la moisson? Bien sûr, elle sait tenir une faux, mais quand même, ce n'est pas un travail pour une femme. Et comment ça s'est passé avec maman? Connaissant l'animosité qui régnait entre la belle-mère et sa bru, il était inquiet quant aux relations qui allaient s'établir entre les deux femmes. Inquiet, mais aussi un peu gêné, et pas tout à fait certain de ne pas avoir été trop sévère, trop brusque avec sa mère. Et pourtant, il fallait bien que je mette les choses au point, que je passe la main à Marthe. Elle seule est capable de me remplacer. Bien sûr, maman a su gérer la ferme quand elle est tombée veuve. Elle a su, oui. Et c'est loin tout ça. Bien sûr, elle m'a élevé seule, mais ça ne lui donne pas tous les droits, et surtout pas celui d'être ce qu'elle est trop souvent avec Marthe. Alors il fallait bien que je dise ce que j'ai dit. Mais il était si peu sûr de ne pas avoir été trop cassant et injuste, que ce sentiment, ajouté à l'envie de retrouver Marthe, l'avait encouragé à faire un saut jusqu'aux combettes. Une fois là, il pourrait dire à sa mère qu'elle ne devait pas prendre ombrage de ses propos, peut-être un peu trop rudes et durs, mais surtout dus à des circonstances exceptionnelles. Lui expliquer que c'était pour la décharger d'un surcroît de soucis et de travail, qu'il avait tout confié à sa femme, et qu'il ne pouvait en être autrement. Agacé, partagé entre l'envie de mettre son projet à exécution et la sagesse qui le poussait à n'en rien faire, il s'était confié à son ami Édouard Fex, le mari de Francette. Ils s'étaient rencontrés 12 ans plus tôt, lors de leur service militaire, au 14e de ligne de Brive. Ensemble, ils avaient suivi le même entraînement, appris à démonter et remonter le Lebel, à supporter son poids, 4,240 kg. Et lors des exercices ou des séances de présentation, à ne pas éborgner les voisins à cause de sa taille. 1m30 sans la baïonnette sabre. Parce qu'ils avaient l'un et l'autre un caractère indépendant et les chines peu souples, ils avaient subi la même bêtise de quelques sous-officiers aussi stupides et bornés que des oies et aussi méchants que des jarres. De même, avaient-ils supporté les brimades imbéciles que les anciens réservaient aux bleus. Ensemble enfin, mais sans la présence de leur ami Edmond Fraisse, un natif de Ujals Nazareth, fils de paysan lui aussi, mais déjà séminariste, ils avaient fréquenté les gargotes et autres maisons closes nichées dans les rues sombres du vieux Brive. Mais le temps était passé, et Édouard, qui jadis n'avait jamais été le dernier à organiser les plus pendables expéditions, à tel point qu'il s'était souvent retrouvé à compter les punaises et les cafards qui grouillaient en salle de police, avait été formel en prenant connaissance du projet de son ami. « Fais pas l'andouille, si tu pars même juste pour cette nuit, et si un de ces crétins de gradé fait un contre-appel, et ils sont tous assez emmerdants pour le faire, tu sauras porter déserteur, et en temps de guerre, je sais, mais y a pas de mec qui tienne. D'ailleurs, demande donc à notre copain curé ce qu'il en pense. Je sais bien que ni toi ni moi n'écoutons quasiment jamais ses sermons, mais à part ça, il a toujours été de bons conseils, avait dit Édouard en élant Edmond Fraisse qui, comme eux, arrangeait son pactage. Mis au courant du projet, l'abbé avait lui aussi levé l'hypothèse d'un contre-appel. Oh, je sais bien que ce n'est pas là le plus gros problème. Édouard ou moi répondrions présent à ta place. On l'a souvent fait dans le temps. Mais ce n'est pas ça qui doit t'empêcher de faire le mur, non. C'est par rapport à chez toi qu'il ne faut pas y retourner. Tiens donc, tu ne crois quand même pas que je vais déserter? Si je pars ce soir, je serai de retour demain matin. Le train passe à Noailles juste à la bonne heure. Je sais, mais le problème n'est pas là. Écoute, tu as fait tes adieux à Marthe, à tes petits, à ta mère et à la mémé. C'est fait. Ça les a sûrement déjà assez peinés. Alors ne va pas leur faire une fausse joie en revenant ce soir pour leur redire adieu demain matin. Et puis, si tout va bien, et c'est bien parti pour, on sera tous de retour à Costeblanc très vite.
Il a raison, avait insisté Édouard. Si tu rentres ce soir, elles croiront que la guerre est déjà finie. Allez, oublie ça. Comme dit Fraisse, on sera chez nous avant la fin août.
Sûrement, avait opiné l'abbé.
Mais si tu veux vraiment faire le mur, juste pour nous rajeunir, on peut toujours s'y essayer ensemble, comme dans le temps. On peut même faire une virée au chat qui chante, tu te souviens?
Avait plaisanté Édouard.
Arrête de déconner, pense un peu à Francette,
L'avait coupé l'abbé. Oui, tu as raison. Je ne suis pas sûr qu'elle ou Marthe soient d'accord. Elle risque même de le prendre mal.
et elles auraient raison. Allez, Jean, avait insisté l'abbé, sois un peu sérieux et dis-toi que tout ça sera fini avant la fin du mois. Ça passera très vite, tu verras.
À la fin du mois, qu'ils disaient tous les deux, pensa-t-il. Oui, mais de quel mois et de quelle année? N'empêche, ils avaient raison. Il ne fallait pas revenir aux Combettes le soir même, ni le lendemain. Pourtant, sûr que je l'aurais fait si j'avais su que ces salauds de l'état-major nous laisseraient presque un an sans revoir les nôtres. Ah, les fumiers! Mais parce qu'à l'époque, il ne se doutait pas à quel point lui et des centaines de milliers d'hommes allaient vivre une épreuve inimaginable, il avait écouté ses amis et était resté à la caserne. Puis, comme tout le monde, il s'était plié aux ordres, même les plus stupides. Discipliné comme tous, il avait suivi le mouvement qui, de Brive, avait d'abord conduit le 326e de ligne jusqu'en Belgique, aux environs de Neuchâtel. Ils étaient là le 22 août, et la route de Berlin semblait ouverte, toute l'Allemagne à genoux et le Kaiser battu à plate couture. Mais tout avait changé en quelques heures, puisque dès le 23 avait commencé la retraite. Une fuite fébrile et désordonnée vers Carignan, Mouzon, Yonque. Un épuisant et dangereux recul devant une armée allemande puissante et bien armée, dont la cavalerie poussait des raids sanglants dans les troupes françaises, dans cette masse en fuite, presque en déroute, qui avait conduit le 326e, déjà amputé de plusieurs hommes et de trois officiers, tombés à Yonque, jusqu'à Chalon-sur-Marne. Épuisés par les marches insensées qu'ils avaient effectuées la peur au ventre et le dos chargé des 30 kilos de leur pactage, sans oublier les 120 cartouches qui leur saignaient le ventre, c'est à Saint-Lumière-en-Champagne que les hommes du 326e de ligne avaient appris qu'il fallait maintenant faire demi-tour, faire face, remonter vers le nord et tenir. Ouais, tenir, déjà tenir, pensa-t-il en se remémorant ces jours de septembre 14 qui les avaient vus revenir, lui et ses compagnons, dans des villages en ruine, abandonnés 15 jours plus tôt, et qu'il fallait réoccuper. Folie que tout cela! Se surprit-il à dire à mi-voix.
Hey, tu parles en dormant ou quoi?
Chuchota son plus proche voisin, un bleu de la classe 18, tapis comme lui dans une niche de terre et pieds dans la boue, à 25 mètres de lui. Il ne répondit pas, soucieux de ne pas perdre le fil de ses souvenirs, de tout ce qui, pour l'heure, l'empêchait de succomber au sommeil. Et pendant qu'on était là-bas à essayer de reprendre le terrain perdu et les villages détruits chez nous, Marthe réussissait à tout faire et sans se plaindre. C'est avec une émotion poignante qu'il avait pris connaissance des premières lettres de Marthe. Une émotion qu'il n'avait pas cherché à dissimuler, car tous ses camarades qui venaient de recevoir des nouvelles de chez eux semblaient aussi touchés.